God, don't tell me.
Le show du matin, week-end.
Ah ouais, tu gars, so, just goes, goes.
Avec Carbo.
Yes.
Radio X. Il revisite l'histoire.
Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
La chronique de Max Power.
Something touched me deep inside the day. The music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing this'll be the day that I die.
Quelle belle toune d'intro pour accueillir, encore une fois pour cette nouvelle saison, notre chum Max Power. Bonjour, Max! Comment ça va?
Ça va très bien.
Max Power, 50e chronique officiellement aujourd'hui.
Hey, 50e chronique. Je me souviens quand on s'était rencontrés le midi au Flashbourg.
Ouais.
On a parlé du concept. Franchement, je pensais pas en faire 10. Là. Quatre ans plus tard, on est rendu là. Et la toune qu'on entend, la toune de Don McLean, parce qu'on parle de 1959 aujourd'hui. Alors, la chanson la plus significative de 1959 a été écrite en 1971.
C'est-tu drôle, pareil? Quel paradoxe! On en parlait cette semaine.
Oui, c'est parce que quand il parle de « day » de « music died », il réfère à au 3 février 59 où Buddy Holly, Big Bopper puis Richie Valens sont morts dans un accident d'avion.
Ouais.
Dans New Jersey, je crois. Et à cette époque-là, Don McLean, l'auteur et interprète de la chanson, il livrait les journaux. Puis il a vu ça, c'était la première page d'un journal. Puis il ne se souvient pas s'il avait pleuré pour ça, mais dans son esprit à lui, qui avait été influencé par la musique de ces artistes-là, bien, c'était la journée où la musique était morte.
Et voilà, la musique est décédée dans ce tragique accident.
Excellent.
Donc, oui. En 1959, on va parler de... Parce que ce concept de cette chronique, Mélanie, toi, tu le sais, parce que ça fait beaucoup d'auditeurs aussi. Mais mettons que quelqu'un se joint à nous. Mettons Gaétan Vito, il ne sait pas, lui. On va relater les grandes lignes de l'année 1959, mais c'est surtout un prétexte, Max, pour jaser de char. J'ai bien hâte de voir de quel char tu vas me parler en 59.
Évidemment, c'est 1959, il y a beaucoup de chars qui ont été là, mais il y en a une en particulier qui a marqué le domaine de l'automobile et a marqué ma vie aussi particulièrement.
Bon.
Mais qu'est-ce qui s'est passé en 59? Il y a certaines choses importantes. Alors, au tout début de l'année, 1er janvier 59, les Cubains se réveillent dans un pays où le dictateur Fulgencio Batista vient de fuir.
OK. Il est parti, lui.
Exactement. Il est parti d'ennui comme un malpropre. Alors, depuis plusieurs années, Batista lui dirigeait Cuba d'une main de fer. Son régime est soutenu au moins indirectement par les États-Unis et la mafia. Il y avait tous les casinos qui étaient là, ils servaient à blanchir l'argent. Puis en face, il y a un mouvement révolutionnaire qui prend de l'ampleur sous la direction d'un jeune avocat, Fidel Castro. Alors, lui, il n'avait contre les dictateurs. Alors, Castro et ses guerrieros avaient commencé leur lutte quelques années auparavant. On en a parlé en 57-58. Puis au début de 59, Batista, il comprend que son régime, c'est fini. Il quitte le pays. Puis quelques jours plus tard, Fidel Castro entre triomphalement à la Havane dans son habit de militaire avec un cigare aux lèvres pour faire son entrée. Puis à ce moment-là, il n'y a personne qui sait exactement jusqu'où va aller la révolution. Castro, il promet bien des affaires, dont se débarrasser de la corruption puis mettre fin à la dictature. Puis on sait aujourd'hui, ça a été un grand succès. Mais très rapidement, son gouvernement se rapproche de l'Union soviétique, adopte des politiques communistes qui fonctionnent toujours. Puis là, pour Washington, là, ça devient un problème. Imaginez une île communiste à quelques centaines de kilomètres de la Floride.
Hey, c'est proche, là.
Alors, la révolution cubaine, ce qui était un phénomène culturel pour les États-Unis, à ce moment-là, va devenir un des principaux points de tension de la guerre froide. Puis ça va mener directement à un des moments les plus dangereux de l'histoire contemporaine, soit la crise des missiles de Cuba en 1962, au moment où le monde s'est littéralement rapproché d'une guerre nucléaire. Autrement dit, quand Fidel Castro entre à la Havane en 59, il ne prend pas seulement le contrôle de Cuba, bien, il contribue à déplacer la guerre froide jusque dans l'hémisphère américain. À part ça, au Tibet, le Dalaï Lama quitte son pays. Puis là, il ne faut pas confondre avec Lucien Bouchard, le Dalaï Dalma. alors, en mars 59, il y a une insurrection qui éclate à Lhasa, au Tibet, contre le pouvoir chinois. La situation devient bien vite extrêmement tendue. Il y a des milliers de Tibétains qui craignent que le Dalaï Lama soit arrêté ou placé sous le contrôle des autorités chinoises. Puis après quelques semaines, alors lui, là, le Dalaï Lama, 17 mars, il quitte le Tibet en secret puis entreprend un voyage extrêmement dangereux à travers l'Himalaya. Après plusieurs semaines, il arrive en Inde. Le gouvernement indien lui accorde l'asile. Il a 23 ans à l'époque.
Qui est jeune.
Ce départ-là va avoir une conséquence historique immense. Alors, le Dalaï Lama, il ne retournera plus jamais au Tibet. Il en est empêché par les Chinois. Puis, il devient progressivement, à l'échelle internationale, le symbole de la cause tibétaine. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cet événement-là, en 59, il ne doit pas être considéré uniquement comme une affaire régionale entre la Chine et le Tibet. Il intervient à une époque où la Chine communiste cherche à consolider son contrôle sur tout son territoire. Puis à ce moment-là aussi, tu as la guerre froide qui oppose les États-Unis puis leurs alliés au bloc communiste. Fait que la question tibétaine, elle devient rapidement une question internationale. Puis 60 ans plus tard, elle demeure extrêmement sensible dans les relations entre la Chine, le Tibet et l'Inde. Parce que la Chine puis l'Inde, c'est les pays où tu as la plus grosse population mondiale.
Ben oui.
Fait que c'est extrêmement important, cette relation-là. Puis quand on regarde les images du Dalaï Lama aujourd'hui, il est difficile d'imaginer que tout a commencé, pour ainsi dire, après ce départ précipité en mars 59.
C'est fou, hein?
Ouais, la conquête de l'espace.
La science-fiction!
Oui, on a parlé en 57 avec Sputnik, 58, la création de la NASA. 59, on est en pleine science-fiction, sauf que c'est devenu une réalité. Les Américains, après le vol de Sputnik, avaient compris quelque chose de bien important, c'est que les Soviétiques étaient capables d'envoyer des objets dans l'espace et éventuellement des êtres humains. Fait qu'en 59, la compétition s'intensifie. Fait que la NASA présente en avril les 7 hommes qui vont devenir les premiers astronautes américains du programme Mercury. Ils sont surnommés les Mercury 7. Mais pendant que les Américains préparent leurs astronautes, les Soviétiques, eux autres, ils continuent de réaliser des exploits dans un autre axe. Alors en janvier, la sonde soviétique Luna 1 devient le premier engin spatial à s'échapper de l'attraction terrestre et à entrer sur une orbite autour du Soleil.
Ah ben!
Puis en octobre, Luna 3 accomplit quelque chose d'extraordinaire. Elle photographie pour la première fois la face cachée de la Lune. Alors, pendant des siècles, les êtres humains ont regardé la Lune sans jamais savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Mais depuis 59, on le sait. Alors, c'est toutes les bases extraterrestres qui sont...
Dans le côté obscur.
La course à l'espace est évidemment scientifique, mais profondément politique aussi. Chaque fusée lancée est une démonstration de puissance. Alors, c'est pas pour rien qu'à chaque fois que la NASA lançait une fusée, là, tous les grands réseaux de télévision américains, ils diffusaient ça prime time. Alors, si un pays peut envoyer un satellite dans l'espace, il peut éventuellement envoyer un homme. Puis s'il peut envoyer un homme dans l'espace, il peut aussi, en théorie, envoyer une arme très loin. C'était la principale préoccupation des Américains. Puis 59, c'était juste une étape. Quelques années plus tard, il y a Yuri Gagarin en 61 qui est devenu le premier humain dans l'espace. En 69, moins de 10 ans plus tard, les Américains envoient Neil Armstrong, Buzz Aldrin, puis toute la gang jusqu'en 72. Mais cette grande aventure-là a commencé véritablement dans les années 50. Puis 59, c'était littéralement une année charnière.
Ça, c'est une question, la prochaine, Max. qui est posée dans un vox pop, puis qu'à peu
tout
près...
Tout le temps.
Personne n'est capable d'y répondre. Mais pourtant...
Alors, combien d'États aux États-Unis?
Ouais.
Alors, il y en a 50.
C'est ça.
Mais il n'y en a pas eu tout le temps 50.
Ben hein, non.
Comme on sait, ça a commencé avec 13. C'est pour ça qu'il y a 13 stripes sur le drapeau américain. Alors, en 59, il y a deux nouveaux États qui rejoignent l'Union américaine. Alors, d'abord, le 3 janvier, l'Alaska est devenu le 49e État américain. Puis quelques mois plus tard, le 21 août, Hawaï est devenu le 50e. Cet événement-là peut sembler anecdotique là, comparé à la Révolution cubaine puis à la course spatiale, mais si on regarde la carte américaine aujourd'hui, la carte des États-Unis, Alaska puis Hawaï font partie intégrante de l'identité géographique du pays. L'Alaska est immense. C'est le plus grand État américain par sa superficie. Puis Hawaï, par sa situation au milieu du Pacifique, donne aux États-Unis une présence stratégique considérable dans cette région-là du monde. Parce qu'il ne faut pas oublier, la Deuxième Guerre mondiale, le Japon qui,
on a passé par là,
qui était passé littéralement par là. Alors, il faut se rappeler du contexte aussi. On est en pleine guerre froide. L'Alaska est littéralement à côté de l'Union soviétique. Puis à certains endroits, les deux territoires sont séparés par quelques dizaines de kilomètres. Puis Hawaï, de son côté, occupe une position stratégique pour tout ce qui est de l'Asie. Alors, l'admission des deux territoires, c'est pas seulement une question géographique, ça renforce la présence américaine dans les deux régions essentielles pour sa défense puis sa politique internationale. Puis probablement que dans quelques mois, le Groenland va être le 51e État.
Mais peut-être le Québec, voyons donc,
Canada,
Max.
Effectivement.
Peut-être.
Mais tout ça, ça n'a aucune importance par rapport à ce qui a marqué l'année 59, c'est la Cadillac Eldorado Biarritz 1950.
Ça, c'est un beau char. As-tu vu ça, Mélanie, sur Google?
Ouais, m'en va le voir, là.
Le sommet de l'automobile américaine, puis il y avait deux Cadillac Eldorado à cette époque-là. Tu avais la Biarritz, qui était le convertible, puis tu avais le Cadillac Eldorado CV, qui était le hardtop deux portes. Puis mes parents se sont mariés dans un Cadillac Eldorado 1959.
Ah oui?
Puis dans ma collection d'iCast, là, j'en ai une blanche avec l'intérieur rouge.
Ah oui, il y en a un qui vient de se vendre à l'encan Sotheby's. 250 000 US.
C'est bon.
C'est bon, ça. Ça valait quoi, ça, dans le temps, ça, Max?
Ah, on va y arriver. On va y arriver. T'es deux questions en avance. Alors, imaginez-vous, en 59, vous arrivez devant le Château Frontenac au volant d'une voiture de près de 20 pieds de long. Vous appuyez sur le bouton, le toit disparaît derrière les sièges, puis vous démarrez dans un grondement d'un énorme V8. Les gens se retournent. C'est pas une Ferrari, c'est pas une Rolls-Royce, c'est une Cadillac Eldorado Biarritz décapotable. Puis cette voiture-là représente probablement mieux que n'importe quelle autre l'exubérance de l'Amérique de la fin des années 50. D'abord, les dimensions, là, quelque chose à peu près impensable aujourd'hui. Cadillac mesure 225 pouces de long, soit 5,7 mètres. Pour vous donner une idée, un Toyota Corolla 2026 est 180 pouces de long. L'empattement, 130 pouces, ça pèse 5060 livres. Un Toyota Corolla 2026 est 2900 livres. Fait que
C'est le double.
C'est quasiment le double. Alors, c'est un véritable paquebot automobile. Les Américains appellent ça un land yacht. Mais le plus spectaculaire, c'est les fameux ailerons arrière. Puis en 59, Cadillac atteint le sommet de la guerre des ailerons parce que tous les manufacturiers américains, c'était qui aurait les plus gros ailerons?
Ah oui, hein?
Ils sont énormes, ils sont pointus, terminés par deux feux arrière qui ressemblent à des tuyères de fusée. Puis c'est pas un hasard. On est en pleine course à l'espace. Les Soviétiques ont lancé Sputnik. Tout tourne autour de l'espace, de la performance. Et d'ailleurs, les ailes arrière, l'arrière des ailes du Cadillac Eldorado 59, c'est l'élément de design le plus marquant du 20e siècle.
Dans l'industrie, oui.
Ouais.
T'as raison, on parle de ça. Puis c'est vrai que c'est beau.
Puis sous le capot, 6,4 litres, 345 chevaux. 6,4 litres, c'est 390 pouces cubes pour les vieux comme moi. Ça développe 345 chevaux, 4800 tours minute, 435 livres de torque. Puis ça ne se contente pas d'un carburateur ordinaire. C'est un C'est un système tri-power, trois carburateurs Rochester deux corps, qui appellent le Triple Deuce. Ça signifie six corps de carburateur au total.
C'est bon, ça.
Alors, tu as six jets d'essence qui alimentent les cylindres. Puis la façon que ça fonctionne, c'est assez ingénieux. Le carburateur central travaille normalement pour le démarrage, le ralenti puis la conduite courante. Par contre, lorsque le conducteur enfonce l'accélérateur, les deux carburateurs supplémentaires entrent en fonction pour fournir beaucoup plus de puissance. C'était la façon très américaine de concevoir une automobile. On ne veut pas seulement assez de puissance, on veut de la puissance en réserve. Il y avait une transmission automatique 4 rapports. Hydramatic 4 rapports, c'était assez rare pour le... On a parlé des voitures début des années 50, c'était des deux vitesses automatiques où les gens normaux, il y avait des transmissions manuelles. et aller jusqu'au milieu des années... Fin des années 70, c'était, la transmission automatique américaine, c'était trois vitesses. Fait qu'un 4 vitesses en 1959, c'était quelque chose. Puis malgré ces 2,3 tonnes... La Cadillac annonce une vitesse maximale de 120 000 à l'heure, soit environ 193 km/h. C'est évidemment pas une voiture de course, la philosophie est différente, mais cette voiture-là est conçue pour parcourir l'autoroute rapidement, confortablement, dans le silence, avec le conducteur installé dans un véritable salon roulant.
Est-ce que dans cette année-là, c'était vraiment un char de luxe? Là? Mettons, les personnes qui avaient ça, c'était luxueux. Mettons.
Ah, définitivement, définitivement. Puis là, tu sais, tu vois ça à la liste d'équipements impressionnantes pour l'époque. Alors, non seulement ça possède la direction assistée, comme mon Camry, les freins assistés, comme mon Camry, les vitres électriques, comme mon Camry, les serrures électriques, comme mon Camry, les sièges électriques à six réglages, pas comme mon Camry. Une antenne électrique, aujourd'hui, là, c'est...
Ton Camry n'a pas ça non plus.
Non, exactement. Il y a une radio et même un système de verrouillage électrique du coffre. Puis, évidemment, surtout, Cadillac utilise une suspension pneumatique.
Ouais.
Les Français, ils ont ça depuis des années.
Toujours.
Là, mais on a adapté ça aux États-Unis. Fait qu'au lieu de reposer, puis au lieu de reposer uniquement sur des ressorts conventionnels, la voiture utilise des coussins d'air. C'est une technologie sophistiquée pour l'époque. Il y a des amortisseurs à gaz sur toute la gamme Cadillac. Même le régulateur de vitesse fait son apparition chez Cadillac en 59, bien qu'il soit proposé en option sur la Biarritz. On pourrait également parler de la climatisation, comme dans mon Camry. Le système Autronic Eye qui ajustait automatiquement les phares. Tu sais, tu rencontres un char... il est plus c'est haut, puis après ça, t'es tranquille.
Il est fort adaptatif.
C'est ça, fort adaptatif.
Pas comme dans ton Camry.
Mais ça l'avait... oui, dans mon Camry, je l'ai. Mais ça avait un problème, c'est que quand deux Cadillac Eldorado Biarritz se croisaient, t'avais ce qu'ils appellent le Light Wars. Alors, un, il voyait arriver l'autre, il baissait les lumières, il était plus c'est haut. L'autre, il voyait qu'il y avait moins de lumière, fait qu'il allumait les hautes.
Ah oui.
Puis après ça, l'autre, tu sais,
C'était peut-être pas... C'était pas parfait.
C'était pas parfait, non, loin de là. Puis ça coûtait comment, ce luxe-là? Alors, une Cadillac Eldorado Biarritz 59, ça se vendait 7 401 $ US, soit 9 200 $ canadiens à l'époque. Puis aujourd'hui, là... en argent de 2026, c'est 103 000 $. Ce qui n'est pas si pire,
ouais,
si tu regardes un Cadillac Escalade au bouchon qui est 130 ou 140 000 dans ces eaux-là. Alors, c'était vraiment à l'époque une fortune destinée à une clientèle fortunée, là, pour répondre à la question de Mélanie. Puis ce qui explique probablement pourquoi Cadillac en a fabriqué seulement 1320 exemplaires. Alors... curieusement, le fait de le vendre très, très cher, ça fait qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup, beaucoup. Par contre, cette rareté-là contribue évidemment à sa valeur auprès des collectionneurs. Alors, tu l'as relaté tantôt, 250 000 $ pour un...
Ah, puis ça, c'est pas cher. J'en ai trouvé un autre tantôt, 860 000 $.
Ouais.
Un rouge, le gris, puis là, c'est le rouge que j'ai vu. Non, non, c'est assez l'enfer. Même.
Mais en 59, là, c'était quelque chose.
Là, et l'auto à se souvenir de l'année 1959. Cadillac.
Définitivement.
Vous irez voir ça sur Google. T'as de l'air un peu tendu dans ton mal de dos. Qu'est-ce qui se passe avec ça?
Moi, j'ai eu, les trois derniers mois, des problèmes de dos épouvantables. J'ai pensé changer de religion tellement ça faisait mal. Là. C'était, pour le localiser, c'était comme au-dessus du différentiel, mais du côté passager. Là.
Ouais.
Puis là, j'ai vu, j'ai tout fait. Là. J'ai pris un rendez-vous chez le médecin, là. C'est rendez-vous 2028. J'ai vu mon chiro. Ma fille, elle me dit, gars, va voir mon ostéopathe. Puis là, ça c'était pas assez. Fait que là, j'ai consulté un chaman.
Hein? Un chaman. Un peu, là.
Ouais, tu sais, chaman, c'est, hein? C'est quelqu'un qui.
C'est vrai?
Qui t'explique que l'énergie, là, il se promène librement dans l'univers.
T'es allé le rencontrer?
C'était par Teams. C'était une rencontre. C'est style Shaman's R Us, là.
Ah oui?
Et là, il m'explique que, tu sais, mon énergie est mal focussée, là. Faudrait que je focus plus spirituel. Fait que là, je demande, je dis, ben, pour, là, je focus sur quoi? Il dit, tu focuses trop sur le côté matérialiste. Je dis, sacrément. Je dis, tu m'as chargé 80$ pour me dire ça. Fait que, puis là, à un moment donné, là, j'ai posé la question qui tue, là, parce que il voyait que je saisis pas trop son concert, puis je voyais pas trop
ça. Tout avec un chaman, là.
Fait que là, je dis, est-ce que je devrais m'acheter un convertible? Fait que là, il dit ouais, mais ça t'enlèvera pas ton problème de dos. Je dis non, mais je vais avoir un convertible. Fait que mais tu sais, j'ai même consulté la vieille amérindienne, la Wendake, là, oui. qui a regardé
la ramancheuse.
Non, elle regarde ton aura.
Ah,
elle regarde ton aura.
Puis j'ai entendu parler d'elle.
Comme on sait, l'aura est supposée être bleue.
Ouais.
La mienne tirait sur le vert, fait que il faut que je travaille là-dessus. Là.
Ah oui?
Convertible et vert ou quoi?
Non, mon aura.
OK.
Fait que, mais là, avec une combinaison là, d'ostéopathe et de chiropraticien, puis ils m'ont tapé ça, puis là, depuis 3-4 jours, là, c'est...
C'est moins pire?
C'est pas mal moins
pire. Parlons de ton portefeuille.
Eh oui, j'ai aussi consulté Claude.
Oui? Oui,
Claude. L'intelligence artificielle, puis c'est pas pire, Claude... C'est vrai le meilleur au niveau du diagnostic à date, parce que finalement, ça s'est avéré que c'était un ligament déchiré. J'y rentre tous mes symptômes sur Claude, puis il me pose des questions. Puis à un moment donné, Claude, il me demande, « As-tu un portefeuille? » Je dis, « C'est quoi le rapport? » Je dis, « Oui, j'ai un portefeuille. » « Tu le portes où? » Ben, je dis, « Ça a fesse droite. » Il dit, « Directement sur le sciatique. » Fait qu'il dit, « C'est peut-être une partie de ton problème. » Fait que là, depuis ce temps-là, je ne porte plus mon
portefeuille en arrière à droite. En tu arrière vas le chercher à droite. Trois fois, tu vas au dépanneur, par exemple. Mais,
ouais. mais je suis certain que c'était pas fou quand même. Là, comme,
l'intelligence artificielle, des fois.
50 ans de porter le portefeuille à la même place, direct sur le sciatique, là, veut pas. Ça...
Ben, c'est fort possible. Mais on a diagnostiqué finalement un ligament déchiré.
Ouais.
Comment est-ce qu'on fait pour se déchirer un ligament, Max?
Je sais pas. Je sais pas en tout. Je pensais c'est peut-être un rapport sexuel trop vigoureux, mais oh. c'est peut-être pas ça.
Non.
Tu sais, Mané, j'avais passé.
Une grouillade.
J'avais passé.
C'est ça, ben sérieux.
J'avais. Mané, il y a un médecin qui m'avait envoyé prendre une radio, puis j'avais fait quelques années, puis un examen complet. Tu sais, l'examen annuel que tu fais à tous les 5 ans.
Oui.
Puis la. Il fait tous les tests, puis à un moment donné, il me rencontre, il dit, « Monsieur Power, il dit, j'ai jamais vu un gars de 85 ans aussi en forme que vous. » C'est OK. J'ai compris le message. Fait que j'ai augmenté la fréquence des examens.
Oui, c'est ça, tout va bien. Ben, ouais. Merci beaucoup, Max Power. Plaisir. Encore bon retour. Et ben, on fait une mini-pause parce que quelqu'un fait les 100 pas de l'autre côté. Les 100 pas sont faits par Marc Desgonis. On ne reviendra pas long.
God, don't tell me. Le show du matin. Ready? Weekend.
With a chance. I will choose.
Radio.
Yes.
X.